autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs, pour nous demander comment répondre aux enjeux de santé mondiale et aux défis sanitaires qui s'annoncent, notamment au sud et sur le continent africain. Face à l'échec des politiques de santé globales menées à grands frais depuis le nord, et s'il fallait changer de perspective et inverser les propositions, et si c'était précisément du sud, d'Afrique, d'Inde, d'Amérique latine, où les contraintes sont les plus fortes, que pouvaient émerger d'autres approches, forcément frugales, singulières et innovantes. L'innovation inversée, une opportunité pour la santé dans le monde, c'était le thème porteur du Forum international de la Fondation de l'Académie de médecine à l'UNESCO, à laquelle participaient nos invités Dominique Kerouédan, fondatrice et conseillère scientifique de la spécialisation Global Health de Sciences Po Paris, après avoir été sur tous les terrains de la médecine humanitaire, et Samir Abdelkrim, expert de l'innovation en Afrique, qui nous rejoindra tout à l'heure par téléphone autour de la question de la santé mondiale et si l'innovation venait du Sud, bienvenue. Bonjour Dominique Kerouédan.
Bonjour Caroline Lachowski.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes docteur en médecine, en épidémiologie et en santé publique, experte en politique internationale de santé des pays en développement. Une expertise que vous avez acquise, Dominique Kerouédan, sur le terrain au cours de plus de 25 ans d'expérience en médecine humanitaire, notamment sur le continent africain. De retour en Europe, vous avez fondé à l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris la spécialisation Global Health ou Santé mondiale, dont vous êtes aujourd'hui la conseillère scientifique, car vous avez à cœur de nous interroger, d'alerter aussi sur les enjeux et les défis de la santé mondiale, de la global health. Un concept, une idée qui, vous l'avez rappelé d'ailleurs dans ce forum de l'Académie de médecine, fait peut-être fausse route, en tout cas engage toujours plus de fonds du nord vers le sud, sans résoudre finalement les défis sanitaires du sud comme du nord, d'ailleurs, Dominique Kerouédan.
Oui, tout à fait. Donc, le concept de santé mondiale est un peu utilisé, en tout cas l'expression santé mondiale un peu utilisée à tort et à travers, mais elle a une source historique et tout à fait précise qu'il est important de connaître parce qu'elle explique tout le déroulé effectivement de la coopération sanitaire internationale depuis 20 ans. Alors ce concept est formulé pour la première fois dans un rapport de Institute of Medicine aux États-Unis, c'est l'équivalent de l'Académie de médecine à l'époque, donc en 1997. Rapport qui s'intitulait l'intérêt vital des États-Unis pour la santé mondiale.
L'intérêt vital des États-Unis à l'époque de quoi ? Du début de la pandémie VIH-Sida.
Voilà, du début de la pandémie VIH-Sida, effectivement. Donc, le chapitre 2, je le cite parce qu'il définit exactement l'idée de la santé mondiale. Les nations du monde ont trop en commun pour que la santé soit considérée comme une question relevant du niveau national. Un nouveau concept de santé mondiale est requis pour traiter des problèmes de santé qui transcendent les frontières, qui pourraient être influencés par des circonstances ou des événements se produisant dans d'autres pays auxquels de meilleures interventions et solutions pourraient être envisagées en coopération.
Alors, donc, principe apparemment très généreux,
oui.
Plus de frontières et santé mondiale, oui. Sauf que vous le précisez bien, ça part des États-Unis et,
oui.
de la peur de
oui.
la pandémie.
Alors, ce qu'on comprend très très bien dans cette formulation, c'est que c'est la menace que représente un risque pandémique qui définit la santé mondiale à l'époque, et dans tous les esprits, c'est la pandémie de sida qui préoccupe donc le gouvernement américain. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, l'Afrique du Sud coordonne les études d'épidémiologie sur l'infection à VIH dans plusieurs États africains et montre que la prévalence du VIH chez les soldats de plusieurs États africains est beaucoup plus élevée qu'en population générale, avec le risque donc qu'on ne puisse pas mobiliser ces soldats dans les forces de maintien de la paix. Donc se pose une question sécuritaire, d'une part parce que nous ne pourrions plus mobiliser ces soldats pour les forces de maintien de la paix, mais aussi parce que le risque pandémique en lui-même pose une question sécuritaire et induit une menace. Donc c'est surtout la peur, donc effectivement, des États-Unis, peur d'ailleurs qui a été le sujet d'un livre par ailleurs, hein, d'un auteur américain qui raconte que la peur, c'est vraiment un thème constant dans l'histoire des États-Unis. Et là, donc, la peur et la métaphore sécuritaire de la coopération sanitaire internationale sous l'influence des États-Unis va amener les États-Unis à mobiliser le Conseil de sécurité. Donc, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan à l'époque, puis l'Assemblée générale des Nations Unies donc en 2001, qui va formuler une résolution appelant à la création d'un fonds SIDA et santé. La résolution invite à la création d'un fonds SIDA et santé, mais malheureusement, les termes de la résolution ne seront pas appliqués comme tels. Et c'est un fonds pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui sera créé en 2002, donc, dont l'institution est basée à Genève. Et donc, au lieu d'une approche générale des problèmes et des enjeux de santé des pays du Sud ou des enjeux de santé pour le monde en général, ce sera un fonds qui ciblera 3 maladies et qui va mobiliser la plus grande partie des financements mondiaux publics et privés pendant les 20 dernières années, aux dépens de la coopération bilatérale d'État à État, parce qu'on ne peut pas tout financer, et y compris en France, où la contribution au Fonds mondial représente à peu près 80% de la contribution française pour la santé dans les pays en développement.
On comprend du coup pourquoi vous voulez alerter sur ce concept de santé mondiale qui ne remplit pas finalement ce pourquoi on croit qu'il est fait, en fait, au départ. C'est-à-dire que, du coup, il ne répond pas aux véritables enjeux sanitaires qui se posent aujourd'hui dans le monde, notamment au Sud, notamment en Afrique. Et du coup, intervient cette idée de dire comment, pour soigner le Sud, mais aussi le Nord, comment s'inspirer du Sud, comment rechercher au Sud d'autres pistes pour, justement, participer véritablement à une amélioration de la santé mondiale ou à répondre aux enjeux et aux défis de la santé mondiale, Dominique Hermadon.
Oui, il est temps de changer de paradigme de la coopération sanitaire internationale, vraiment, et de le penser collectivement, ensemble avec les États du Sud. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de la fondation de l'Académie de médecine, qui est reconnue d'utilité publique depuis 2013 et dont l'objectif est de proposer le meilleur de l'offre de santé pour le plus grand nombre de personnes dans le monde et qui a vocation d'échange entre des chercheurs et des enseignants et des académiciens et des professionnels de santé, des associations impliquées, des patients, mais aussi d'avoir un impact auprès du public et une transmission de messages de santé publique auprès du public, parce que c'est vrai que c'est important de penser entre politique et stratégique, mais c'est important aussi que les professionnels de santé et les patients et leurs représentants soient associés à l'élaboration de ces concepts, parce que ils vont bien entendu s'inscrire dans cette démarche et dans la mise en application.
D'où l'idée de ces forums. Il y a eu des forums bilatéraux, mais de ce forum international, organisé donc par l'Académie de médecine, dont vous êtes d'ailleurs membre associé, Dominique Hermadon, c'était à l'UNESCO à Paris, autour de l'innovation inversée et frugale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'innovation frugale? Écoutez, celui qui l'a mis à l'honneur et qui l'a mis dans notre vocabulaire, l'essayiste et conférencier issu de la Silicon Valley, Navin Rajou, qui participait évidemment à ce forum.
Alors, l'innovation frugale consiste à faire mieux avec moins. C'est une pratique très commune dans les pays émergents où les gens ont très peu de ressources mais ont beaucoup de besoins, d'énormes besoins en termes d'accès à l'eau, l'éducation, l'énergie, la santé. Et donc, ils vont puiser dans leur ingéniosité et leur résilience pour créer des solutions simples avec très peu de ressources. De ce fait, ils sont capables de faire mieux avec moins, c'est-à-dire créer plus de valeur à la fois économique et sociale et écologique, tout en minimisant l'utilisation de ressources rares.
Faire plus avec moins en santé aussi, c'est possible et c'est essentiel aujourd'hui, Dominique Hermadon.
C'est essentiel, ça a toujours été un peu la tentative dans les pays pauvres, en particulier en Afrique, parce que du fait de la rareté des ressources financières, mais aussi matérielles et surtout humaines, trop peu de médecins, trop peu de soignants en général. Donc effectivement, mais ça devient et ça aurait dû être très important aussi pour les systèmes de santé des pays européens et des pays occidentaux en général, parce que on en arrive à des niveaux de dépenses de santé qui sont très 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 importants.
Mais finalement, les questions qui se posent depuis toujours au Sud se posent aujourd'hui au Nord aussi. Finalement, il faut mettre tout ça sur la table ensemble.
Voilà, absolument. Ce sont vraiment des questions communes maintenant au système de santé du Nord et du Sud, parce que on ne peut plus se permettre le luxe des dépenses de santé que nous avons, d'autant que la population est vieillissante en Europe, d'autant que la population croît de manière considérable en Afrique. Donc c'est une croissance démographique inédite dans l'histoire de l'humanité, nous disent les démographes, hein, le doublement de la population africaine entre maintenant et d'ici une vingtaine d'années, 25 ans. Donc c'est colossal, c'est absolument énorme ce qui va se passer. On a du mal même à se le représenter et à en anticiper tous les effets en termes de besoins alimentaires, de besoins sociaux, de besoins en éducation, en santé.
Il faut donc, si on ne peut pas l'anticiper véritablement, au moins s'y préparer un peu et réfléchir autrement, finalement inverser les propositions. Parmi les pays qui sont, dans l'innovation inversée de fait, hein, parce que souvent la contrainte implique la créativité, il y a évidemment l'Inde, hein, qui est un des pays émergent de l'innovation inversée. Je propose d'écouter l'éclairage de Mahesh Mishra. Lui, il est président de l'université Mahatma Gandhi des sciences médicales et de technologie à Jaipur, Rajasthan. Il a partagé dans ce forum organisé par la Fondation de l'Académie de médecine un des projets d'innovation inversée né en Inde, celui d'une prothèse à moindre coût, surnommée le pied de Jaipur. Mahesh Mishra fait la genèse de cette innovation inversée au micro de notre reporter Charlie Dupiot.
Les raisons de toutes ces amputations sont la guerre, les accidents, comme les accidents de moto en Inde notamment, ou le diabète. Cette prothèse a été nommée le pied de Jaipur. Elle a été développée en Inde à la fin des années 60, début des années 70. Le prototype a été fabriqué à ce moment-là, mais il n'était pas accessible à de nombreux patients. Alors quelqu'un a eu l'idée de créer une organisation non gouvernementale.
So they started then manufacturing this.
Avec cette ONG, ils ont commencé à produire ce pied de Jaipur, cette prothèse dans une petite usine, et maintenant une prothèse de genou y est aussi fabriquée. Ils produisent ces prothèses et les donnent gratuitement aux patients. Car la plupart de ceux qui en ont besoin sont pauvres, ils ne peuvent pas se permettre de payer $100 pour acheter cette prothèse. Or, les fonds sont collectés auprès de donateurs. Aujourd'hui, ces prothèses sont distribuées dans de nombreux pays, au Kenya, au Nigeria, dans d'autres pays africains, en Asie également, dans des pays en guerre comme l'Afghanistan ou l'Irak. Ces prothèses ont aidé 1,6 million personnes jusqu'à aujourd'hui. Elles ont de très bonnes fonctionnalités et quelqu'un peut, avec une simple prothèse, marcher, courir ou faire du vélo. Initialement, les prothèses étaient fabriquées avec du bois au centre, puis couvertes de caoutchouc. Mais maintenant, elles sont fabriquées avec une substance durable. Comme des prothèses moyennes, leur durée de vie est de 3 ans et demi.
Qu'est-ce qui fait de ces prothèses de l'innovation inversée ?
Pourquoi c'est de l'innovation inversée ? Parce que de telles prothèses, en France ou aux États-Unis, coûteraient 15 000, 20 000 dollars ou même plus. Et en Inde, elles coûtent entre 65 et 100 dollars. Si elles sont vraiment de qualité, pourquoi ne pourrait-on pas les utiliser ailleurs ? C'est en cela que c'est de l'innovation inversée.
Comment expliquer cette différence de
coût ? Quel est le coût de production du t-shirt que je porte, fabriqué dans une usine ? Peut-être 4 dollars. Quand je l'achète dans un centre commercial, il peut coûter 80, 100 dollars. Et ça s'applique à tous les objets. La question, c'est quel profit peut-on se faire sur un produit ? C'est en se posant la question que l'on peut maintenir un coût faible et avec de la qualité. Il faut que le produit soit d'une qualité raisonnable.
Qu'est-ce que pour vous ça veut dire l'innovation inversée ? Quels avantages, quelles portes ça ouvre pour des pays émergents comme l'Inde ?
Il s'agit d'inventer de nouvelles choses, mais aussi de développer des mécanismes, de repenser l'innovation. Je pense que le coût des soins de santé est un problème qui concerne toute notre planète. Et comment garder ces soins accessibles pour la majorité des populations ? C'est le défi, que cela soit en Inde, en France, au Sénégal, au Mexique ou en Europe dans son ensemble.
Dominique Herouet, donc vous inspire ce témoignage de Mahesh Mishri, donc président de l'Université des sciences et des technologies à Jaipur en Inde, pays émergent de l'innovation inversée.
Oui, tout à fait. Alors d'abord, ce qui m'a beaucoup frappé dans sa présentation au forum, c'est qu'il a présenté les accidents de la voie publique comme pratiquement un problème de santé publique majeur en Inde, et alors qu'on en est toujours à parler donc des pathologies infectieuses ou des pathologies chroniques dont le cancer et le diabète bien sûr sont aussi des problèmes majeurs de santé publique.
Mais les accidents de la route.
Mais les accidents aussi. De la route, oui. Mmh. Et c'est la même chose, je pense, en Afrique. On ne les a pas encore peut-être mesurés suffisamment, mais ça devient un problème extrêmement important de santé et de coût parce que du fait des handicaps qui en découle.
Donc effectivement, les mêmes problèmes ou les mêmes questions se posent aussi au nord et au sud, mais différemment. Et comment se fait-il qu'au sud, c'est la contrainte qui pousse aussi à l'innovation en matière de santé comme dans d'autres domaines, Dominique Herouet?
Oui, c'est la contrainte qui pousse à l'innovation. Mais je crois que ce qui serait intéressant de faire de manière commune, c'est de faire évoluer les systèmes de santé vers une prévention beaucoup plus importante, vers vraiment la prévention devrait être en premier sur l'agenda de ces politiques de santé partout. Parce que d'une part, bon, quand vous prévenez une pathologie ou un événement, bon, ça coûte rien, mais quand vous le dépistez de manière précoce, c'est beaucoup moins cher. Donc prévention, dépistage, diagnostic précoce des pathologies et notamment des pathologies chroniques, donc le diabète, l'hypertension, les pathologies cardiovasculaires, les cancers, les pathologies respiratoires, les problèmes de santé mentale également.
Mais pour ça aussi, il va falloir de l'innovation parce qu'il y a pas tant de centres de santé que ça, vous l'avez dit vous-même. Pour faire de la prévention, c'est compliqué, hein. Il faut donc là aussi innover.
Oui, il faut innover, mais c'est d'abord une question de volonté politique. Mmh. Et de manière générale, les États, et c'est un peu partout pareil, sont très peu intéressés. En tout cas, les hommes politiques s'intéressent peu à la santé. On le voit en Afrique, hein, où les budgets accordés à la santé sont inférieurs à 10%, voire 5% du budget de l'État. Donc, c'est vraiment rien. Et puis même dans les pays européens, en France, on voit bien que les questions donc de prévention ont moins d'intérêt aussi bien auprès des politiques que des professionnels de santé, que les questions curatives, que les questions tournées autour des thérapeutiques. Donc on a une approche curative du système de soins, donc on pense à maladies et traitements à médicaments, plus qu'une approche préventive. Et elle est très importante, cette approche, parce que, par exemple, en Afrique, la plupart des cancers sont liés à des infections. Donc, le cancer de l'estomac, c'est une infection. Le cancer du foie, l'hépatite virale.
Donc une bonne prévention pourrait prémunir contre ces cancers, éviter ces cancers.
Absolument. Éviter ou les dépister très tôt, comme le cancer du col de l'utérus, par exemple, chez les jeunes filles, les jeunes femmes. Et les traiter très tôt, donc pas de conséquences en termes d'envahissement, de métastases, et puis des prises en charge donc thérapeutiques par la radiothérapie ou des chimiothérapies extrêmement coûteuses pour le système de santé, et d'abord pour les personnes en cas où il n'y a pas d'assurance maladie.
Dominique Herouet, sur RFI, je propose d'écouter un de vos artistes préférés, musicalement et éthiquement, je crois, vous le reconnaissez.
Oui, tout à fait. Ismaël Lo, j'aime beaucoup son éthique.
Jammu Africa.
Africa, Africa, mon ami, sama gente qui me guigne ni alovan moko balame ni bibansa. Mane betu nyak si beti Afrika don penere o. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombe, luttons pour la paix. Kon jamu Afrika, mom la nyan. Mane jamu Afrika, moy suñu natange. Thank you.
Jammu Africa, Ismaël Lo sur RFI en français, en Wolof, en Poulard. C'est votre choix, Dominique Erwedon. Autour de la question de la santé mondiale et si l'innovation venait du Sud, l'innovation inversée en santé, c'était le thème du Forum international de la Fondation de l'Académie de médecine à l'UNESCO à Paris, auquel vous avez activement participé, Dominique Erwedon, en compagnie de chercheurs des pays partenaires de la femme, le Brésil, la Chine, l'Inde, le Mexique, la Russie et le Sénégal, pour mettre en avant cette innovation inversée qui est aussi aujourd'hui souvent liée aux nouvelles technologies numériques. Nous sommes en ligne avec Samir Abdelkrim. Bonjour Samir.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur et consultant, expert de l'innovation africaine, auteur entre autres du très beau Startup Lions, ouvrage au cœur de l'African Tech, c'est-à-dire au cœur finalement de l'innovation inversée en matière de santé, comment faire mieux avec moins, comment être stimulé finalement par les contraintes. Surtout le continent, Samir, des jeunes entrepreneurs développent des applications et ont des idées, c'est ce que vous avez constaté.
Tout à fait. Bah, ce qui est assez remarquable sur le terrain et ce qui complète parfaitement ce qui vient d'être expliqué, c'est qu'il y a des problèmes massifs, infrastructurels véritablement colossaux, et un contexte de pénurie généralisée dans les services publics, notamment dans les services publics de santé. Et ce qui est véritablement assez impressionnant et ce que l'on voit vraiment sur le terrain en Afrique, c'est que ce sont aujourd'hui, grâce justement à la pénétration mobile, à l'irruption du numérique dans le quotidien des Africains, ce sont les entrepreneurs, ce sont les start-up qui aujourd'hui apportent des solutions pour résoudre des problèmes de santé publique qui aujourd'hui font des ravages dans les sociétés africaines, que ce soit par exemple dans la prévention de la mortalité infantile et maternelle, que ce soit dans la déclaration des naissances, parce qu'il faut savoir qu'il y a un vrai problème de déclaration des naissances, notamment dans la région du Sahel, que ce soit en matière de lutte contre les faux médicaments, où là il y a des technologies, notamment de reconnaissance par SMS, qui permet de lutter contre la vente de faux médicaments, notamment en Afrique de l'Ouest, au Ghana, en Côte d'Ivoire, mais ailleurs, que ce soit en matière de lutte contre les déserts médicaux, ou au Maroc, par exemple, il y a des solutions qui sont développées. Par exemple, un des projets marocains qui a été primé il y a 2 ans par l'Observatoire de la e-santé de la Fondation Pierre Fabre, qui s'appelle Medtrucks, où là, c'est une caravane de santé qui est véritablement destinée à aller à la rencontre des personnes vivant dans les hameaux les plus isolés du Maroc, pour notamment les prendre en charge dans le cadre de leur maladie néphrétique. Et cette innovation qui est véritablement développée au Maroc aujourd'hui, et là on rejoint le sujet du jour qui est l'innovation inversée, est aujourd'hui en train d'être répliquée en Provence.
Ah oui, c'est ça qui est aussi un désert médical, tout comme certaines régions du Maroc. Hein.
Tout à fait. Enfin, si on élargit plutôt la région PACA. Cette innovation qui est accélérée qui a été détectée au Maroc et qui est accélérée actuellement dans un incubateur à Aix-en-Provence, qui s'appelle The Camp, pour pas le citer, c'est un exemple d'innovation inversée où, effectivement, les contraintes, le manque d'investissement, enfin, la première contrainte, en fait, c'est le premier manque, ce sont les investissements publics en matière de santé.
Il n'y a pas d'investissement public en matière de santé, ou très peu, dans les pays du Sud et sur le continent africain notamment.
Tout à fait, si on prend les PIB cumulés de tous les pays d'Afrique, ça représente moins de 5% du PIB continental. Et ça, c'est selon l'IFRI, donc il y a un vrai sous-investissement. Et les technologies, l'entrepreneuriat, l'innovation africaine, et je consacre tout un chapitre entier dans mon livre, apportent des solutions qui, sur le terrain, quelque part, j'ai envie de dire, les entrepreneurs endossent des responsabilités qui, normalement, devraient être de la compétence des États.
Finalement, ils pallient à ces incompétences, grâce au numérique, grâce au portable, notamment.
Tout à fait. Après, la question qui se pose aussi, c'est effectivement, on peut avoir, alors dans un langage un peu barbare de start-upper, on dit le proof of concept, la preuve du concept, c'est-à-dire une innovation qui va résoudre un problème, va avoir des résultats localement. La question qui se pose, c'est quand on veut s'attaquer à des défis massifs, il faut savoir que chaque jour dans le monde, et principalement en Afrique, un peu plus de 800 femmes décèdent pendant leur grossesse ou en accouchant. Comment on passe à l'échelle? Et là, c'est la vraie question. C'est comment finalement les services de santé régaliens nationaux s'emparent de ces innovations qui marchent, pour les faire passer à l'échelle et pour, quelque part, les intégrer dans leur schéma de santé national.
Et c'est-à-dire que la créativité doit être au pouvoir, au fond, finalement, et partir des entrepreneurs, mais ensuite, il faut, pour passer à une autre échelle, que ça remonte au niveau de l'État. On va revenir sur cette question que vous soulevez, qui est fondamentale, mais auparavant, je propose, Dominique et Samir, de découvrir, vous le connaissez, un exemple d'innovation inversée qui est né en Côte d'Ivoire, à l'initiative d'un entrepreneur ivoirien qui s'appelle Etche Noël Ndrine, et qui a imaginé des carnets électroniques de vaccination disponibles donc sur son téléphone portable. Explication et genèse de ce projet de carnet de vaccination électronique au micro de Charlie Dupiot.
Mon neveu de 4-10 ans aujourd'hui, qui est tombé malade à l'âge de 2 ans, il est sorti, Dieu merci, vivant. Mais malheureusement, il est sourd. Et on s'est rendu compte que son calendrier vaccinal n'était pas respecté. On a chaque année près de 100 000 enfants qui meurent faute de vaccination de la rougeole dans le monde entier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on sait que ces vaccins, hein, de 0 à 11 mois, ces vaccins sont gratuits. Le moment qu'ils ne savent pas, ne connaissent pas le calendrier vaccinal. Donc il fallait une application qui va donner des informations sur le vaccin. Donner la posologie, quand est-ce qu'on fait le vaccin, la date, et pouvoir rappeler en cas d'absence à un rendez-vous de vaccination. Donc au PSMS, qui est le nom de mon application, permet de rappeler par SMS les différents rendez-vous de vaccination. Lorsque la maman est enceinte et qu'elle se rend dans un centre de santé, n'est-ce pas, là, on a le premier contact. On prend son nom et son numéro de téléphone, et une fois qu'on a ces informations, bien entendu, en amont, on a ce qu'on appelle un consentement éclairé. On informe la maman de ce service-là, à travers la Côte d'Ivoire.
Encore faut-il que ces femmes-là sachent lire en français aussi?
Oui, effectivement. Mais nous avons adapté notre application, de sorte que, si elles ne savent pas lire, ce sont des messages beaucoup, mais ces messages-là sont d'abord préenregistrés dans la langue qu'elles parlent. Si ça c'est en malinké ou en baoulé, le message viendra en baoulé ou en malinké.
Faire passer le message aux mamans qu'il faut faire vacciner leurs enfants, leur faire passer le message dans leur langue, qu'elles sachent lire ou pas, grâce au téléphone portable. C'est l'application Opi SMS. Vous voulez réagir, Dominique Herouédan?
Oui, c'est très intéressant comme démarche pour toucher les femmes enceintes qui viennent en consultation prénatale. Donc, certainement avec beaucoup d'effets en milieu urbain. Par contre, la fréquentation des services de santé par les femmes enceintes en milieu rural reste trop faible. Et donc, on pourrait élargir cette idée aux femmes enceintes en général. Donc, faire des appels peut-être à la radio ou pour les identifier en beaucoup plus grand nombre et que toutes les femmes enceintes puissent bénéficier de ce service.
Qu'est-ce que vous en pensez, Samir? Vous êtes au téléphone avec nous.
Oui, tout à fait. Effectivement, ça c'est un projet que je connais très bien et ça me fait penser à un autre projet assez similaire dans la lutte contre la mortalité infantile maternelle, qui lui est basé au Cameroun, il s'appelle Gifted Mom. C'est également un ancien lauréat de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud, où là, clairement, il y a un peu cette convergence avec Opi SMS et qu'on commence à se rapprocher un peu du passage à l'échelle. Et là, et ça rejoint l'intervention précédente, ça touche aussi beaucoup les femmes qui se trouvent dans les zones rurales et reculées du Cameroun. Tous les jours, elles reçoivent des notifications par SMS. Il faut savoir qu'il y a à peine 2-3 ans, Alain Teff, qui est l'entrepreneur à l'origine de Gifted Mom, n'avait qu'une poignée de milliers d'utilisatrices mensuelles. Aujourd'hui, il a dépassé les 60 000 utilisatrices. Et ce qui est intéressant...
Ah oui, là, ça a changé d'échelle, carrément.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les premiers clients, donc il y a un modèle économique quand même derrière, ce sont les autorités régionales de santé, ce sont les hôpitaux publics camerounais qui achètent le back-office, la technologie pour pouvoir, entre guillemets, suivre, gérer, avoir une vision claire des patientes qui sont suivies par leur établissement hospitalier.
C'est-à-dire qu'effectivement, les États se ressaisissent de ces inventions, de cette innovation inversée ou pas, pour pallier finalement à leur manque aussi, Dominique Herouédan.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment une bonne idée. C'est une façon de généraliser comme ça une initiative qui a été testée à petite échelle. Et vraiment, c'est une bonne chose de pouvoir la généraliser à un coût pas très élevé pour les hôpitaux, là, en l'occurrence.
Samir, vous avez d'autres exemples, hein. Parfois, l'État carrément reprend complètement à son compte ces innovations. Je crois que c'est au Rwanda, c'est ça ?
Tout à fait. Bah, alors le Rwanda, ça c'est encore un cas, je dirais, particulier, encore plus frappant, où là les contraintes sont très fortes, en particulier depuis 1994, où le Rwanda a traversé une tragédie humaine, effroyable, le génocide et tous les services publics, l'État était à terre. Et là, effectivement, pour justement agir sur la santé des mamans et pour faire baisser de manière durable et significative le taux de mortalité maternelle et infantile, qui était au lendemain du génocide de 300 pour 1000 naissances, donc c'est quand même assez important. Aujourd'hui, il est en dessous de la moyenne internationale, qui est à peu près de 30-35 pour 1000 naissances. Bah, l'État a créé une application publique, hein, qui s'appelle Rapid SMS, où là c'est véritablement le ministère de la Santé qui a innové pour créer une application qui permet de suivre les femmes enceintes, de les contrôler, entre guillemets, c'est-à-dire de voir comment elles vont, de voir si la grossesse se passe bien, d'anticiper s'il y a un risque possible d'hémorragie, par exemple. Et tous les jours, les agents de santé sur le terrain qui ont un téléphone et qui vont un petit peu voir comment vont les femmes enceintes font remonter l'information par SMS sur le serveur de cette application, et l'intelligence artificielle de cette application permet d'organiser ou de prévoir par rapport au secteur où se trouvent les femmes enceintes et qui peuvent avoir un accouchement à risque, de prévoir d'organiser les services de santé, par exemple de prévoir 2 semaines à l'avance qu'il va y avoir là un pic de naissance ou que dans 2 semaines il peut y avoir des accouchements difficiles dans tel ou tel hôpital.
Là carrément on pourrait s'en inspirer nous au Nord également, Dominique Herouedan.
Oui, bien sûr, on pourrait s'inspirer de beaucoup d'initiatives qui se passent au Sud. Moi, je crois que, de manière générale, en santé publique, on a besoin d'innover technologiquement, mais on a aussi besoin d'innover intellectuellement, stratégiquement, politiquement.
Il y a du boulot. Hein,
oui, il y a beaucoup de travail, et je crois que l'innovation, il ne faut pas réduire le terme d'innovation, je pense, à la technologie, mais on a besoin d'innover surtout dans les idées maintenant.
De penser autrement,
penser donc aussi pouvoir peut-être même un petit peu anticiper les phénomènes, les bouleversements qui vont se produire, qui se produisent déjà sur le terrain ou dans un avenir proche. Voilà, on a besoin de penseurs. Je pense de manière générale d'ailleurs que les philosophes ne sont pas assez intéressés encore par la question du développement, des relations internationales, de l'Afrique, des questions de pauvreté.
Enfin, et n'ont pas mesuré non plus à quel point la santé était géopolitique et une question à penser.
Voilà, tout à fait. Je pense que c'est une question à penser peut-être dans les pays européens ou occidentaux pour eux, mais pas encore dans les pays pauvres et les pays du Sud. Et on a besoin de nouveaux penseurs dans ce domaine et on a besoin de nouveaux politiques, et c'était exactement l'objet de ma démarche en tant que médecin. Je suis partie enseigner à Sciences Po pour familiariser les futurs politiques ou responsables dans l'administration aux questions de santé, leur donner une légitimité d'en discuter avec les professionnels de santé, les autorités sanitaires, et espérer donc que d'autres personnes que les professionnels de santé s'impliquent sur ce secteur. C'est fondamental.
C'est fondamental. Sur ce secteur de la santé, autour de la question de l'innovation inversée, on continue dans les exemples très nombreux de créativité. Je pense découvrir une nouvelle application mobile pour prévenir cette fois-ci une maladie chronique, prévenir et informer sur le diabète. Cette application est née au Sénégal à l'initiative de Maïmouna Dour Mbaye. C'est une application très simple, hein, téléchargée sur son mobile, qui véhicule par SMS des messages de prévention sur le diabète et sur ses complications, des conseils également pour les diabétiques comme pour les soignants. Maïmouna Dour Mbaye nous fait une démonstration de M-Diabète au micro de Charlie Dupiot.
Je peux vous lire un exemple du SMS que j'ai reçu ce matin pour le Ramadan. Il est écrit ce matin, par exemple, Si en milieu de journée ou d'après-midi, votre glycémie est inférieure à 0,7 g par litre, rompez le jeûne immédiatement, mangez et signalez-le à votre médecin. Tous les diabétiques ne savent pas, par exemple, que s'ils jeûnent, ils doivent contrôler plus fréquemment leur glycémie. C'est très important dans notre contexte parce que nous n'avons pas les moyens de faire face à des soins curatifs. Le diabète fait partie de ces maladies qu'on appelle les maladies à soins coûteux. Nous n'avons ni les technologies, ni les ressources humaines qualifiées, ni les infrastructures pour faire face à ces soins curatifs. Donc nous mettons l'accent sur la prévention. La prévention qui se coûte beaucoup moins cher et qui peut, grâce à cet outil, grâce au mobile, être accessible au plus grand nombre qui réside par exemple dans les zones rurales où il n'y a pas des infrastructures de santé nécessaires. En moyenne, un Sénégalais parcourt 8 km pour avoir accès à un premier poste de santé.
Qui n'est pas forcément équipé,
qui n'a pas forcément les ressources humaines qualifiées. Le diabète a été estimé, selon la dernière enquête de 2015, à 3,5% de la population. Mais nous pensons que ce chiffre est largement sous-estimé parce que nous savons que la moitié des patients n'est pas diagnostiquée. Donc nous ciblons non seulement les patients, ceux qui savent qu'ils sont déjà diabétiques, mais également la population générale pour les alerter et les conseiller, leur donner les mesures de prévention pour éviter la survenue de la maladie.
Et alors comment vous faites pour avoir les numéros de toutes ces personnes-là, pour rentrer en contact avec elles ?
L'inscription est volontaire. Donc nous avons mis en place un numéro vert, un site web pour ceux qui ont accès à l'Internet. Et dans toutes les structures de santé, il y a des fiches d'inscription qui sont disponibles. Et nous faisons une vaste campagne de communication autour de la question pour encourager les gens à s'inscrire. En 2018, parmi ces 160 000 inscrits, nous avons 59 000 professionnels de santé. Et tout le reste, ce sont soit des diabétiques, soit des gens qui ne sont pas diabétiques, mais qui sont dans l'entourage d'un diabétique ou qui simplement désirent en savoir plus sur le diabète.
Et pour vous, qu'est-ce que ça évoque alors, cette idée d'innovation inversée ?
Ça veut dire déjà trouver des stratégies locales. Il est temps pour nous de ne pas compter que sur des stratégies importées d'ailleurs. Il nous faut trouver des solutions locales et surtout à moindre coût. Nous avons de grosses difficultés avec les maladies aiguës que nous n'arrivons pas encore à vaincre. S'il s'y rajoute le problème des maladies chroniques, nous n'en sortons pas. Et ce problème, il est général. Il n'est pas spécifique aux pays émergents. Je pense que même dans les pays développés, les maladies à soins coûteux vont à terme représenter un enjeu insurmontable. Et c'est maintenant qu'il faut trouver des solutions qui ne coûtent pas cher et qui sont accessibles au plus grand nombre. C'est ce que nous essayons de faire avec ce programme M Diabète.
Vous voulez réagir, Dominique Hérouédon? Je rappelle juste que depuis son lancement, donc M Diabète est diffusé gratuitement par les opérateurs téléphoniques. En 2019, l'OMS, l'Union internationale des télécoms au Sénégal et le ministère sénégalais de la Santé devraient prendre le relais. Dominique Hérouédon.
Ouais, je crois que Maïmouna a tout dit. Elle a parlé de la population générale, elle a parlé de prévention versus soins curatifs. Elle a bien expliqué en quoi c'est un problème de santé publique majeur et que le Sénégal n'a pas les moyens de prendre en charge les complications en fait, du diabète qui sont extrêmement coûteuses. Et nous avons eu une session récemment à l'Académie de médecine sur les complications cardiovasculaires du diabète, justement. Donc en France, et on est confronté au même problème et nous ne dépistons pas encore assez précocement le diabète en France et de manière systématique dans l'ensemble des centres de santé primaires, j'ai envie de dire, enfin de premier contact avec les populations. Donc oui, c'est une intervention extrêmement intéressante et le diabète est devenu depuis un moment déjà un problème de santé publique très important dans les États africains. Lorsque j'avais rencontré il y a quelque temps l'ambassadeur du Niger auprès des institutions européennes à Bruxelles et que je lui demandais des nouvelles de son programme SIDA avec lequel j'avais travaillé, m'avait répondu, mais justement, c'est le diabète qui est notre préoccupation.
Comme quoi tout change et comme quoi tout change partout et très vite aujourd'hui sur la planète. Samir Abdelkrim, peut-être qu'au sud, sur le continent africain, on voit que les choses changent très vite et en même temps, quoi, je ne sais pas si on sait s'y adapter, mais en tout cas, on a d'autres propositions, d'autres possibilités, une autre forme d'inventivité. Dominique Hérouédon disait qu'il fallait penser autrement. Peut-être qu'on pense de fait déjà un peu autrement au sud.
Je suis complètement d'accord, je partage totalement cet avis, d'autant plus que, quelque part, c'est paradoxal, mais tous ces retards sont aussi une opportunité pour l'Afrique de créer un futur, en fait de créer le futur et de créer des systèmes qui n'ont jamais été inventés ailleurs, mais qui correspondent profondément aux besoins et aux problèmes locaux au quotidien, et qui peuvent aussi ensuite inspirer le reste du monde. Je reste au Rwanda, donc ça c'est un passage que je documente bien dans mon livre, Startup Lions. C'est le seul et le premier pays au monde qui a créé, donc là pour véritablement révolutionner son système de santé en termes d'infrastructure, le premier drone port au monde. C'est un aéroport pour les drones. Et ce drone port, sa mission et de délivrer des médicaments ou des poches de sang aux personnes malades ou accidentées ou en situation d'urgence absolue qui se situent dans les zones, dans les villages, dans les collines, dans les zones reculées. Il faut savoir que parfois, notamment en saison des pluies, il faut 6 heures de route pour atteindre une personne dans une zone reculée et lui apporter une assistance médicale. Avec ces drones, le trajet ne dure que 30 minutes. Et les poches de sang et les médicaments sont parachutés directement par le drone exactement au point précis pour être ensuite recueillis par des agents de santé qui peuvent ensuite intervenir. Et ça, c'est de la vraie rupture technologique. C'est, on invente quelque chose de nouveau, quelque part on invente une nouvelle forme d'infrastructure de santé mobile ou en tout cas volante. Et ça, c'est un exemple qui pourrait en inspirer des dizaines d'autres et qui est une illustration, je pense, de comment la santé, la e-santé est en train d'être réimpensée, repensée sur le continent africain et comment est-ce que l'Afrique peut être génératrice de nouveaux modèles qui peuvent s'exporter ailleurs dans le monde.
Génératrice, l'Afrique, de nouveaux modèles. Finalement, au Sud, on se rend compte qu'on est déjà demain, on y est déjà, et que c'est aussi parce qu'on peut regarder également le passé, mais aussi les pratiques traditionnelles, parce que dans cette nouvelle approche sur la santé globale, il y a aussi les pratiques traditionnelles, les savoirs et le rôle historique des femmes en matière de santé. Vous aviez invité Dominique Hérouédan au Collège de France, vous avez été titulaire de la chaire Savoir contre pauvreté, la professeure ivoirienne Henriette Diagri-Diabaté. Je crois que c'est la première fois qu'il y avait une femme africaine au Collège de France en 400 ans, c'est pas mal.
Oui, justement, professeure Diabaté donc, est historienne et très respectée en Côte d'Ivoire.
Et qui avait partagé ses réflexions sur le concept donc, de santé traditionnelle chez les Akans de Côte d'Ivoire, également sur le rôle des femmes, le rôle sanitaire de la femme en Afrique. On l'écoute et vous réagirez ensuite.
La santé est certes, comme le dit l'OMS, un état de complet bien-être physique, mental et social, mais elle est perçue par les Akans avant tout comme un équilibre indispensable entre le monde des humains et celui des esprits. En matière de politique sanitaire, est-on préparé à utiliser sans préjugés les connaissances et les aptitudes des femmes rurales? S'il est vrai que la médecine occidentale a universalisé la pénicilline et l'aspirine et contribue à faire reculer les endémies telles que la variole, le pian, la maladie du sommeil, le ver de Guinée, la lèpre. Il est aussi vrai que le néré cuit de nos mères, qu'on appelle soumara, les feuilles d'avocatier, l'écorce d'anacardier, sont efficaces contre l'hypertension. Il est dit aussi que la cola séchée, épilée, tout comme l'écorce de canne à sucre, sont efficaces contre le diabète. Et puis par ailleurs, aujourd'hui, de nombreuses filles d'envergure sont apparues, comme la pandémie du VIH, ainsi que d'autres maladies, de même que des maladies réémergentes. Pour ce nouveau tableau pathologique, les interventions d'acteurs nationaux ainsi que internationaux d'Europe, d'Asie, d'Amérique, du système des Nations Unies, la Banque mondiale, les ONG, dans les faits, n'obtiennent pas toujours les résultats escomptés, des résultats en termes de niveau de santé à la hauteur des moyens qui sont investis. Cette préoccupation nous pousse face au futur à ne négliger aucune piste, y compris celles qui nous paraissent dépassées. De ce point de vue, le potentiel féminin ainsi que le savoir dont disposent nos mères ne sont pas à négliger. Ils sont presque toujours intacts encore et restent mobilisables. Cette prise en compte relève essentiellement de la responsabilité nationale, mais il importe d'en informer la diplomatie sanitaire, car l'absence d'un dialogue entre la médecine occidentale, chinoise et africaine, ne permet qu'un développement selon des lignes parallèles. Une autre question, la pratique moderne de la médecine ne gagnerait-elle pas à mieux prendre en compte la philosophie des croyances profondes et le ressentiment des populations dans une sorte de pédagogie qui, en même temps qu'elle privilégie les aspects objectifs et rationnels de la pratique médicale moderne, rassure le patient quant à la part relative à accorder aux aspects métaphysiques dans l'équilibre de la santé. Une approche intellectuelle combinant la vision entre l'anthropocentrique, caractéristique dominante de la pensée occidentale, et celle cosmocentrique, caractéristique des sociétés africaines traditionnelles, ne contribuerait-elle pas à améliorer non seulement le contenu des formations en soins de santé dans les écoles et les universités, mais également les rapports entre soignants et soignés à travers un véritable partage de culture.
Tout est dit par la professeure Henriette Diagri-Diabaté au Collège de France. Au fond, l'un n'empêche pas l'autre. C'est surtout ça, Dominique Arouedan.
Oui, tout à fait. Elle a raison, vraiment, raison de rappeler que nous pouvons travailler de manière complémentaire. Il y avait d'ailleurs eu des tentatives dans ce sens des professionnels de santé travaillant sur le sida à Abidjan et qui avaient sollicité les médecins traditionnels pour voir comment ils pouvaient travailler ensemble. Donc il y a quelques initiatives dans ce sens. Ce que je trouve intéressant dans sa proposition, enfin dans ses propos, c'est qu'elle interroge les résultats de la médecine moderne et des politiques internationales avec les immenses financements dont elle a pu disposer ces dernières années. Et en même temps, rappelle le rôle de la femme dans le domaine de la santé, mais aussi les questions de représentation de la santé. On ne peut pas travailler dans le domaine de la santé sans s'interroger sur comment se représente la santé, la maladie, la mort dans ces sociétés ou dans nos sociétés en général.
Oui, c'est pas global, la santé, c'est singulier, hein, c'est ce que vous dites aussi.
Oui, exactement. C'est singulier, c'est très intime comme secteur. Et on le voit bien peut-être au moment de la fin de vie en France, tout ce qui peut se passer entre le patient et son médecin ou entre le patient et les membres de sa famille. Donc on interroge à un moment donné le sens de la vie, une vision du monde. Et puis là, Henriette parle donc d'une vision du monde, comment est structurée la société. Donc la santé n'est pas du tout comme ça réduite à un système ou une offre de santé avec un médecin, un établissement et des médicaments.
La santé fait partie de la culture, la manière dont le rapport
culture,
au corps,
voilà.
Le rapport à la vie, à la mort.
Voilà, exactement. Donc c'est très vaste. C'est pour ça que c'est un secteur compliqué en même temps.
Mais sur lequel il faut se pencher, s'y intéresser. On a bien compris, hein. Y penser, voilà. Y penser, ça c'est un petit clin d'œil au y penseur de Samir. J'ai envie de terminer sur une citation que vous faites, Dominique Arouedan. Vous citez le philosophe Walter Benjamin, la catastrophe c'est quand tout continue comme avant. Espérons que tout ne continue pas comme avant et qu'on invente et qu'on innove autre chose.
Oui, tout à fait. Non, on ne continuera plus comme avant. Je crois qu'on a justement parlé beaucoup de nouveautés avec Samir et ça nous donne beaucoup d'espoir pour que les choses se passent bien pour tout le monde.
Merci Dominique Héroédan d'être venu en direct dans notre studio. Vous revenez quand vous voulez. De même, merci Samir Abdelkrim d'avoir été au téléphone avec nous. On vous retrouve très vite. On vous invite dans notre studio pour partager toutes les pistes des Startup Lions, hein, des start-up sur tout le continent africain, au cœur de l'African Tech. Le livre est disponible sur Amazon et c'est à lire absolument. On va continuer à s'en faire le relais sur RFI. Merci à tous les deux.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté. Merci de votre curiosité, amis auditeurs. On se retrouve demain avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses pour d'autres interrogations. D'ici là, portez-vous bien, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, une minute, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur RFI.